Bonjour, Raymond Richard au micro, qui est à la technique, et nous nous retrouvons pour Tourne-Page. Alors aujourd'hui, on va tourner les pages, et on a beaucoup de chance, avec le livre de Jean-Michel Yeaux, La France en panne d'envie, et c'est Jean-Michel Yeaux qui va nous parler de son livre. Donc, merci beaucoup d'être venu à Radio Grand Ciel pour nous parler de ce livre. Alors, je l'ai lu, et j'ai été quand même impressionnée. C'est vraiment aussi dur et aussi sévère le constat qu'on peut faire actuellement autour des entreprises?
Ah, si, avec, d'abord, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Si, avec les entreprises, c'est pas un constat contre les entreprises.
Non, je n'ai pas eu l'impression que c'était contre les entreprises. J'ai eu l'impression que, quelque part, vous plaidiez aussi en faveur de mesures qui pourraient libérer l'entreprise et lui permettre d'avoir envie ou d'avancer. Mais en même temps, je me suis dit, elles sont, parce que j'ai l'impression quand même qu'elles sont sur le plan international, et je me suis dit, bon, bien, ce défaut qui est en France est peut-être corrigé par ce qui se passe ailleurs.
Non, mais attendez, le livre en fait, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il raconte ou qu'est-ce qu'il cherche à démontrer, c'est que un individu ou un groupe social, pour avoir envie, pour avoir envie, pour être motivé, pour sourire le matin, pour penser à quelque chose quand il se rase à 8 heures, qui n'est pas forcément la présidence de la République, il a besoin d'avoir envie. Et que la chose la plus importante dans l'envie, c'est qu'il y ait un sens. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, quand je me lève le matin, quand je vais au boulot, je le fais parce que il y a un sens. J'ai l'impression de servir quelque chose, de bâtir une cathédrale. J'ai cet exemple dans le livre, de bâtir une cathédrale. Et ce que je trouve dans notre pays à l'heure actuelle, alors particulièrement dans notre pays à l'heure actuelle, c'est que la société française, on ne lui propose aucun sens. C'est quoi la France ? Elle fait quoi la France? Elle apporte quoi la France au reste du monde? Elle montre quoi? Son pouvoir, son savoir-faire, sa différence. On a une exception culturelle, paraît-il, mais je voudrais bien savoir ce qu'elle est. Donc, on est dans une société qui ne propose plus aucun sens. Et ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui proposent un sens à leurs collaborateurs, et puis les entreprises qui n'en proposent pas. Et donc, de temps en temps, je parle d'entreprises et je donne des exemples en montrant qu'il y a une stratégie. Il y a des savoir-faire, il y a de la technologie, il y a de l'innovation, mais il n'y a pas de sens. Et puis il y a des entreprises, au contraire, et j'en cite une qui s'appelle Zappo, qui est formidable. Zappo, il a décidé que ses salariés devaient être heureux au travail. Et il a repris une entreprise, je ne sais plus, pour 160 millions de dollars. Il a revendu 2 ou 3 ans plus tard 1,5 milliard de dollars. Donc, et en créant du bonheur, en créant du bonheur pour ses salariés. Et ses salariés ont participé à une croissance et ses salariés ont probablement profité de la croissance parce qu'ils étaient heureux. Moi, je ne comprends pas et je n'admets pas qu'on soit patron d'une boîte et qu'on n'ait pas comme souci prioritaire de dire cette boîte, c'est une boîte d'hommes et de femmes, et que les hommes et les femmes qui passent entre 8 heures par jour et beaucoup plus d'ailleurs, de plus en plus dans un certain nombre d'entreprises, doivent absolument éprouver une forme de bien-être, de complicité avec les autres et de bonheur dans l'entreprise. Et à chaque fois qu'ils le font, on voit que ça marche formidablement pour l'entreprise. Or, aujourd'hui, on est dans un pays où on déprime, dans un pays où on a peur. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de chefs d'entreprise à qui on propose des idées, à qui on propose des capacités de se développer, à qui et qui sont dans une espèce de terreur de prendre un risque et qui sont presque ravis de trouver une excuse pour ne pas choisir une option.
Donc ravi de trouver le système français qui les coince un peu par son administration assez
fatiguante. Oui, enfin, ils sont ravis. Psychologiquement, on a tellement peur du risque dans ce pays, on a tellement peur de l'aventure, on a tellement peur de la conquête. Attendez, ce qui se passe là sur l'histoire des pauvres salariés de magasin des Champs-Élysées, dont j'ai oublié le nom.
Sephora.
Attendez. Oui, on a une loi qui est certainement bien quand elle a été votée, qui est devenue totalement obsolète. On voit le nombre de chômeurs qu'il y a en France. Il y a des gens qui ont envie de travailler. On retire, on perd... Enfin, j'ai vu ce matin qu'on parlait de 100 000 emplois qui pourraient être créés si on ouvrait le dimanche et si on ouvrait le soir. Moi, j'avais vu un autre chiffre qui était 20 000. Mais cette idée de pouvoir trouver quelque chose qui fait qu'on ne va pas changer, qu'on va rester sur des lois qui sont obsolètes quand le monde est en train de bouger à toute vitesse et où on prend du retard à longueur de temps sur le reste du monde, mais on est malade. Ce pays vit... marche sur la tête.
Oui, effectivement, Sephora, enfin, en tout cas, moi, je le disais, dans la mesure où ce sont des gens qui veulent, je vois vraiment pas le mal qu'ils font. Enfin, je me suis dit, bah oui, pourquoi ne... Enfin, j'ai pas compris, effectivement.
Mais non, mais attendez, faut voir. La France, c'est un petit commerçant dans un monde de petits et de moyens et de grands commerçants.
Un peu de poujadisme.
Non, mais attendez, il faut pas se tromper. On est sur un marché mondial, qu'on le veuille ou non, on est sur un marché mondial. Hein. Et il y a une solution sur un marché mondial où vous êtes plus compétitif, plus imaginatif, plus innovant et vous vendez, où vous êtes moins compétitif, moins imaginatif, moins innovant et plus paresseux et on ne vend pas. Et à l'heure actuelle, on est en train de perdre des parts de marché sur la planète parce que on a peur de notre ombre, parce que on a des lois qui sont devenues complètement débiles par rapport aux lois de la concurrence. Alors c'est complètement... Ce pays va mal.
Ce pays va mal. Et par ailleurs, je trouvais quand même qu'il y avait des raisons d'être optimiste, puisque dans certaines entreprises, alors vous avez évoqué Monsieur Vigneron qui redresse.
Oui, mais alors moi j'adore
Vallès.
Vigneron, que je connais bien et pour cause, c'est un type exceptionnel, un moine soldat d'une intégrité intellectuelle et d'une intégrité financière, enfin morale totale, et il reprend une boîte qui est un fleuron de la technologie française qui s'appelle Thalès. Quand il la reprend, c'est une boîte qui, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'elle avait une belle image, allait mal. Allait mal parce qu'elle avait des coûts de production beaucoup trop élevés, parce qu'elle n'était plus tout à fait dans l'air du temps, etc., etc. Vigneron est nommé, voit extrêmement clair sur la situation de l'entreprise, considère que cette entreprise qui a une belle image, elle va au casse-pipe, et réorganise formidablement l'entreprise, avec un travail colossal, une intelligence totale, et 2 ans de labeur formidable, il réorganise l'entreprise. Mais au lieu de réorganiser l'entreprise, en expliquant à ses collaborateurs, en expliquant aux médias, en expliquant au pouvoir politique, puisque c'est une entreprise sous tutelle...
Donc là, il y a un travail d'équipe à faire aussi.
Regardez où je les emmène, regardez comment nous allons reconquérir le monde, voilà pourquoi je fais toute cette transformation. Il a simplement dit, on vit dans le luxe, il faut qu'on fasse des économies, donc je réorganise pour faire des économies. Alors qu'en fait, il réorganisait pour repartir en déploiement. Donc 2 ans plus tard, il s'était mis tout le monde à dos, le gouvernement, les syndicats, et de façon générale, les médias, l'opinion publique. Il a redressé complètement la boîte, mais faute d'avoir donné envie de son redressement, ben finalement, il a sauté. Il a été mis à la porte, il a été remplacé par quelqu'un qui aujourd'hui récolte...
Oui, parce que Thalès va bien.
Ah ben Thalès va très très bien depuis qu'il l'a redressé, oui. Le jour dernier résultat à l'Assemblée Générale, quand on a présenté les résultats de la stratégie de Vigneron, la bourse a pris 24% de plus en 8 jours. Et pourtant, il n'a pas su donner envie, donc pourtant il s'est mis à dos son entreprise alors qu'il avait une vision formidable.
Oui, alors il y a de bons exemples. Si j'ai remarqué Air France avec Christian Blanc qui, vous donniez cet exemple. Donc je me suis dit, il y a quand même des gens qui ont envie et qui sont des capitaines d'industrie. Donc là, je me dis, il y a, enfin, tout le monde ne peut pas avoir cette participation. Enfin, disons, à la fois des capitaines d'industrie, à la fois des gens qui suivent et qui ont envie d'avancer, d'être entraînés, parce qu'après tout le monde ne peut pas être chef, mais être entraîné pour faire quelque chose. Il y avait quelque chose d'intéressant.
Mais les gens ont besoin. D'abord, les gens ont besoin d'être entraînés. Hein. Vous savez, malheureusement, les individus ont conscience de leurs propres limites, et s'ils ont l'impression que les gens qui sont au-dessus d'eux sont aussi limités qu'eux, ça commence à flanquer la déprime. Et c'est pour ça la quête de sens est importante. Et vous parliez de Christian Blanc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Christian Blanc a fait une chose formidable, c'est qu'en 6 mois, il a repris une entreprise qui était en suicide collectif. On l'a oublié aujourd'hui, mais Air France était une compagnie moribonde et les salariés d'Air France considéraient que la boîte était morte. Il prend la tête de la boîte et il leur explique qu'ils peuvent être champions du monde. Il leur explique pourquoi ils peuvent être champions du monde. Et il leur explique comment on va devenir champion du monde. Et il crée 14 chantiers, hein, qu'on a appelé les 14 chantiers de la simplification.
Oui, que vous pouvez découvrir dans le livre quand même,
parce qu'on parle dans le livre, absolument. Et en 6 mois, sans un jour de grève, et Dieu sait pourtant si Air France est une habituée des grèves, sans un jour de grève, il a totalement bouleversé l'entreprise. Il a emmené toutes ses équipes vers une cathédrale, et c'est devenu, 2 ans plus tard, la première compagnie mondiale.
Oui, donc...
C'est l'envie. Vous savez, ça me rappelle un peu, excusez-moi, ça va être un peu ma chose que je vais dire, mais imaginez le père qui est de famille et qui réveille sa femme et qui dit « va faire la vaisselle, fais les valises, réveille les enfants, et puis ferme les volets ». Et puis une fois qu'elle a fait tout ça, elle lui dit « bon bah écoute, je vous emmène tous en vacances au soleil ». Et puis celui qui les réveille et qui dit « tu sais, on va passer une semaine formidable en vacances, on part au soleil, alors il faut qu'on fasse les valises, qu'on lève les enfants, etc. etc. » C'est quand même pas la même chose. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne crée pas d'envie. On ne donne pas de sens. On ne dit pas « vous pouvez être les meilleurs du monde pour telle raison ». On a un pays qui a des atouts formidables, et on passe son temps à geindre sur nos difficultés et à ne rien réformer et à ne rien changer.
Je crois que de toute façon, donner le sens, effectivement, ça me paraît important pour n'importe quoi, y compris pour l'enfant, pour qu'il apprenne à lire. Enfin, c'est clair que donner le sens, ça va de soi, me semble-t-il. Alors, quand même, la petite Marie, alors, finalement, à la fin, quand même, ça marche pour elle. Parce que disons que
Moi, j'aime beaucoup Marie.
On ouvre sur une histoire, on a évoqué les entreprises, mais on ouvre quand même sur l'histoire de Marie qui se fourvoie dans sa formation, qui continue quand même et qui finalement a des responsabilités et a l'air d'être enthousiaste dans ce qu'elle fait.
Oui, parce qu'elle a la niaque, hein, parce que il faut quand même Marie, elle se fourvoie dans ses études, j'allais dire oui et non, parce que quand même elle a pris 8 ans de, elle est bac plus 8 Marie. Elle a fait de la psycho, elle a fait de l'accompagnement à l'hôpital pendant 3 ans pour faire ses études de psycho. Après, elle fait un master de communication parce qu'elle se rend compte que la psycho, c'est comme beaucoup de choses qu'on apprend à l'université, ça apporte pas, ça la conduit pas à grand chose. Et puis, elle rentre dans un grand groupe de communication. Elle a 30 ans. Elle est jolie, elle est brillante, elle est extrêmement travailleuse. Elle travaille 12-15 heures par jour. Et elle est payée 2000 euros par mois. Alors, il y en a qui trouvent que c'est beaucoup. 30 ans plus bac plus 8, extrêmement brillant, je trouve, moi, que c'est pas suffisant, surtout à Paris. Comme elle est exigeante, elle n'a pas de petite amie, on n'en a pas trouvé. Elle vit chez ses parents parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer un loyer. On marche sur la tête. Bac plus 8, 30 ans, brillant, travailleur, courageux, joli en plus. Pas de pouvoir payer son appartement, on marche sur la tête. Alors effectivement, Marie, parce que je romance un peu sur Marie, à la fin, elle a une belle aventure, puisqu'elle est responsable, elle est chargée dans une entreprise de créer l'envie. Elle est directrice de l'envie.
Oui, j'avoue que là, ça existe vraiment, là, la directrice.
Mais non,
de
mais ça devrait. Vous ça savez, devrait moi, exister. Si j'étais directeur de ressources humaines d'un groupe, j'aurais 2 adjoints. J'aurais un adjoint pour les process, les négociations sociales, les plans de carrière, la formation. Et puis j'aurais un 2e adjoint, je mettrais à ma droite ou à ma gauche, vous choisissez, et lui qui serait directeur de l'envie. Et je crois que je lui demanderais de ne pas parler à l'autre.
Ah bon, pas parler à l'autre.
Oui, pour
d'accord.
Pas qu'il se fasse polluer.
Oui, alors dans ce livre, effectivement, on voit l'aventure de la petite Marie, mais on voit aussi la situation des, disons... des salariés en France ou l'état d'esprit, mais on assiste à l'aventure de quelques entreprises et j'avoue que là, c'est, on ne s'ennuie pas, voilà, au moins un livre, on ne s'endort pas, donc c'est pas mal. Et puis, enfin, un livre qui ouvre des pistes, justement, autour de l'envie. Donc, c'est assez intéressant. Alors, quelquefois, vous avez quand même des moments, vous êtes sévère, hein, la fin des perroquets, oh, pauvre perroquet.
Ah oui, Carlos Ghosn n'est pas quelqu'un pour lequel j'ai une estime remarquable. En tout cas, certainement moins que celle qu'il se porte à lui-même. Oui, c'est du management, vous savez.
C'est du management de ce type.
L'ancienne, c'est dramatique.
On amène les gens à redire la même chose tout le temps, partout.
Non, mais les perroquets, pourquoi? Parce que en plus, il y a une convention avec ses cadres supérieurs, quand même. Enfin, avec des types qui sont tous extrêmement brillants, avec des véritables responsabilités. Ils ont décidé de faire une vraie réunion de « on se parle vrai ». Sauf que les questions sont rédigées par le service communication et sélectionnées avant, et on fait poser les questions par des volontaires nommés.
Oui, j'ai vu cette description.
Hein, qui pose la bonne question au patron. Et surtout, on évite les sujets qui fâchent, on marche ou non. Enfin.
Eh bien, en tout cas, je vous propose de lire ce livre de Jean-Michel Yeaux, La France en panne d'envie. C'est édité chez Michalon. Et prenez un peu de plaisir en lisant ça, c'est dynamique. Bonne semaine à tous.